Bonjour et bienvenue sur LP Business, la dernière de la saison, avant de changer ce générique là qui n'a plus aucun sens. Aujourd'hui, actualité d'été avec Nicolas Ruiz qui vient nous voir depuis Bergerac. Nicolas Ruiz, les tablettes, le groupe Heavy Group, les tablettes professionnelles. Nicolas, bonjour.
Bonjour Stéphane.
Bonjour, à sort du restaurant, c'était vachement bien. Jean-Luc qui se joint à nous aujourd'hui, ex-VCT. De Capgemini, Saïsi Show, un autre talent périgourdin qui vient nous rejoindre pour cette émission Actualité d'été technologique sur la paix business. Jean-Luc, bonjour.
Bonjour Stéphane.
Bon, très bien. Écoutez les amis, je vous ai mis ensemble là pour manger. C'était super, ça fusait de tous les côtés. Moi j'aime ça. J'aime quand les cerveaux fusent. J'aime lorsque ça sent les neurones. Ce sont les invités de la semaine. Nous allons parler science, nous allons parler techno, IA, matos, avec un peu de Palantir et de sécurité. Ne bougez pas, ce sont les invités de la semaine. C'est tout de suite après ça.
L'invité de la semaine.
Alors, nous allons cette fois-ci être original et entamer un sujet dont personne ne parle. Je veux parler de l'IA, intelligence artificielle. Sauf que depuis la dernière fois qu'on en a parlé, il s'est passé un certain nombre de choses, notamment, qui veut commencer ? Ça pirate dans tous les sens, ça se concurrence dans tous les sens. Nico ?
Alors, quand tu parles de piratage, j'imagine que tu parles des modèles chinois.
Donc, ils ont fait de l'alcool, là, ils ont distillé
voilà,
un peu. Là.
Donc, ils ont fait ce qu'on appelle de la distillation, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les modèles chinois, qui sont quand même très intelligents, les tout derniers modèles, alors, qui s'appellent GLM 5.2 pour ceux qui veulent chercher, sont aussi intelligents que les modèles de chez Anthropic, Claude. Mm-hmm. Et on se rend compte qu'ils ont fait de la distillation, le terme réel c'est distillation, c'est-à-dire qu'en fait, pour construire leur base de données d'IA, ils ont interrogé avec des millions et des millions de bots l'intelligence artificielle des Américains, Anthropic, et ça a permis de la construire et de l'améliorer. Donc c'est une sorte de piratage en règle.
Ça c'est du parasitage de... quelque part.
Exactement, ça mange les ressources des Américains pour créer une IA chinoise.
Jean-Luc, tu as suivi cette affaire-là, toi ?
Exactement, alors il s'agissait plus exactement de Qwen, le modèle de Alibaba. Et Alibaba avait organisé un montage sur des dizaines de milliers de comptes permettant de requêter les modèles d'Anthropic pour construire le sien par distillation, effectivement. Mais ce qu'il faut noter ces dernières semaines, c'est l'actualité de l'IA où... très régulièrement, on a des nouveautés. Alors, on a parlé de GLM. GLM 5.2, c'est le modèle de Z.AI, qui vient du monde universitaire historiquement, mais qui offre une IA open source, open weight, c'est-à-dire qu'on peut la télécharger et l'exécuter localement dans notre propre data center si jamais on veut la souveraineté et la confidentialité. Elle a un niveau colossal. Sur l'ensemble des modèles, elle se classe en numéro 2. Elle est numéro 1 en modèle open White et numéro 2 juste après Anthropic. Et dans l'actualité sur Anthropic, il faut savoir que Anthropic a ouvert Fable 5 qui avait été fermé à l'export sur décision politique par Trump. Ça a été réouvert, mais sauf qu'on n'a plus que l'emballage. C'est-à-dire que l'exécution de Fable 5, derrière, c'est du Opus 4.8, ce sont d'autres modèles moins performants que ce qu'il y avait initialement dans le modèle Fable 5. Donc on a conservé le packaging histoire d'avoir sur la table une nouveauté, alors qu'en fait, il n'y a pas de nouveauté accessible. Et à contrario, en face, on a les Chinois qui font nouveauté sur nouveauté, avec Kimi 2.7, avec GLM 2.5, avec tous ces modèles qui ont vraiment une super performance. Et dans la dernière nouveauté, parce que le périmètre du développement est quand même un axe majeur sur l'IA, on utilise l'IA pour développer des logiciels, on a Ornit qui fait son apparition. Ornit, c'est une mixture of experts.
J'allais faire un jeu de mots australien, mais je me retiens.
L'ornithorynque, non.
Non, voilà.
Non, c'est un modèle de développement qui a appris sur le contenu des lignes de code, mais également sur la façon de développer. Et qui s'enrichit progressivement, qui améliore sa façon de développer. Et c'est un modèle très léger. Et donc, on voit que d'un côté, on a les modèles occidentaux qui sont Anthropic, GPT, etc., qui arrivent avec des nouveautés qu'on filtre et donc qui sont inaccessibles. Et de l'autre côté, on a des modèles légers, chinois, qui arrivent avec de l'innovation. Et on va avoir un shift des consommateurs qui n'ont actuellement le choix que de payer des tokens hyper chers aux Américains ou d'aller vers de l'innovation auprès des Chinois.
Ah, tu as dit tokens, d'ailleurs. Ça soulève un autre problème. C'est qu'on se rend compte aujourd'hui que le prix des tokens commence à apparaître. Il est appelé à monter si la bulle de l'IA se diminue. Et donc, au niveau de l'emploi, on se rend compte que remplacer des salariés par de l'IA n'est pas forcément devenu très rentable parce que le prix des tokens, le prix de l'usage de l'IA commence dans certains cas à dépasser le prix de l'humain qui était en fait remplacé, Nico.
Alors effectivement, alors déjà l'augmentation du prix de l'IA, on le paye tous les jours. C'est-à-dire que quand vous achetez maintenant votre téléphone portable, votre ordinateur, votre console de jeu, Xbox a annoncé des hausses de prix la semaine dernière, en fait vous payez le développement de l'IA, puisque finalement ces hausses de prix sont la résultante des grosses commandes des sociétés comme OpenAI ou Anthropic pour leur data center. Et le fait est que les tokens sont effectivement subventionnés, on ne paye pas le vrai prix de l'IA. Il y a encore une fois, là, je regarde simplement, tu sais, ils font leurs entrées en bourse, ils préparent leurs entrées en bourse pour la fin de l'année. On se rend compte qu'ils veulent amortir les data centers sur 7 ou 8 ans, parfois un peu moins, parfois un peu plus. Il n'y a que Amazon qui est à peu près honnête dans la vraie amortissement.
Ah, SpaceX a été stratosphérique, voilà, si je peux me permettre.
Et du coup, en fait, on n'amortit pas des data centers sur des aussi longues périodes. C'est une façon aussi de dire, on freine les dépenses, alors que c'est juste une manip comptable. Et là, effectivement, donc, le coût au token devient une problématique, puisque finalement, tout le monde subventionne tout le monde avec ce type de manip, quoi.
D'accord. Au niveau de l'emploi ?
Au niveau de l'emploi, en fait, si on regarde le périmètre budgétaire, on a des budgets IA qui ne sont pas maîtrisés et qui flambent, qui augmentent de mois en mois au niveau des entreprises. Et là, on constate que le coût du token dépasse le salaire des développeurs. Alors, on pourrait se dire, tiens, un développeur est donc moins cher que l'usage de l'IA, mais je pense qu'il faut changer la façon de raisonner. Il faut regarder la valeur produite et éventuellement le time to market. Et là, il reste quand même un avantage pour l'IA.
Alors, pour le moment, le souci, mais ça va être réglé, c'est qu'on n'est pas capable de prédire combien va nous coûter l'IA. C'est-à-dire, quand tu lances un projet avec l'IA, tu ne sais pas combien de tokens elle va consommer.
Il y a des surprises, des fois.
Voilà. Ouais. Et c'est ça, la problématique. Maintenant, il y a des outils d'audit qui se mettent en place, etc. Moi, j'aurais tendance aussi à rajouter, tout ça, c'est un peu la faute des Américains. C'est-à-dire, l'année dernière, ils étaient à fond. Même Trump l'avait dit, faites de l'IA, sortez les modèles. Et on a vu Anthropic, surtout Anthropic, du côté d'Anthropic, dire « Ah, notre modèle, il est trop puissant, même trop dangereux, il ne faut pas le sortir. » Ils se sont fait un peu mousser. Peut-être c'était du buzz, peut-être c'était une façon de dire « On est vraiment très fort. »
C'est le jeu, c'est très concurrentiel, et donc on se met en avant.
Ça s'est retourné contre eux. C'est-à-dire que l'administration américaine a commencé à dire « Vous ne sortez pas ces modèles, on va vérifier avant. » Et c'est même le cas avec ChatGPT, avec le 5.6. Et je ne sais pas si tu as vu, mais Sam Altman, donc le PDG d'OpenAI, a proposé 10% du capital d'OpenAI au gouvernement américain.
Oui, mais on revient sur la problématique de dépendre de technologies étrangères qui sont soumises aux règles sur l'exportation et donc à la souveraineté du pays qui les émet. Si Trump dit non, je ne veux pas que ces technologies-là soient accessibles en dehors de notre pays, elles ne le seront pas et nous, pauvres Européens, on ne les aura plus.
D'où l'intérêt des modèles alternatifs Open White, mais ceux-là ne sont pas produits par les Américains, ils sont produits par les Chinois.
Alors, tu me fais rebondir sur un truc très bien, là, je pense à quelque chose. J'ai vu passer une distribution Linux, ça tient sur un Tera, un disque dur d'un Tera, c'est pour les survivalistes notamment et autres. Tu as une IA en local, l'intégralité de Wikipédia, et donc même si Internet s'arrête, chez toi, tu as donc une IA sur ton ordinateur local avec une base de savoir assez intéressante qui peut te répondre. Vous avez vu passer ça, les gars ?
Alors, je ne connais pas ce projet en général. Moi, j'ai travaillé sur des projets à un Internet offline.
D'accord.
Et ça se stockait. Alors, c'était sur des DVD. Et l'idée, c'était aussi bien en cas de catastrophe majeure, mais aussi, tu sais, pour les pays qui sont peu connectés.
Là, c'est un MLM. Puis tu es suivant là, ce que tu veux. Mais tu mets l'intégralité de Wikipédia sur ton ordinateur en local, un MLM dessus. Tu poses tes questions, il te répond par oral. Même s'il n'y a pas Internet, c'est un début. C'est un début de quelque chose. Tiens, Jean-Luc, toi qui es très orienté autonomie, BAD, autonomie durable et autres, c'est quelque chose que tu as regardé, toi, ou qui
t'as
travaillé dessus un petit peu ?
Oui, j'ai regardé essentiellement le périmètre des applications offline, c'est-à-dire ces applications qui peuvent fonctionner sur rupture d'Internet, par exemple de déplacement géographique, c'est-à-dire si le GPS tient mais pas Internet, on a les cartes offline et on est en mesure malgré tout d'aller dans les bonnes directions avec les bons éléments. Et effectivement, le périmètre de la connaissance, à savoir que consommer, est-ce que ce champignon est bon, est-ce que cette plante a telle vertu, etc. On arrive davantage sur des bases de type Wikipédia et il y a des applications qui sont disponibles sur les stores et qui sont prévues pour fonctionner offline. Donc ça, c'était une première capacité. En seconde capacité, c'était la capacité d'exploiter le matériel du téléphone, parce qu'un téléphone peut servir de boussole même s'il n'a pas de boussole. C'est-à-dire qu'en exploitant le GPS plus un déplacement, de ce fait, on est en mesure de recalibrer une boussole. On a différentes capacités même de protection.
C'était marrant c'est-à-dire à coder, d'ailleurs. Ça,
le téléphone peut faire alarme, c'est-à-dire qu'en cas de problème, ben, on est quand même content d'avoir une alarme, même si on n'est pas chez soi. Donc il y a tout un ensemble de sujets un peu survivalistes autour du téléphone.
On peut coder des détections de chutes ou de comportements anormaux sur le téléphone qui vont triggering et qui vont déclencher des signaux, des alertes de notification.
Alors ça, c'est ce qu'on avait fait sur la première application qu'on a commercialisée chez Cécicho, effectivement.
Ok, matériel. Il y a plein de nouveautés dans les matériels. Il me semble que la Chine fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour bypasser, pour contourner les limitations américaines et accéder aux mémoires de type NVIDIA, de type GPU, de type pour l'IA. Et j'ai vu passer des nouvelles. L'autonomie technologique de la Chine progresse, Nicolas.
Alors ça, c'est encore grâce aux Américains et à Trump, sous son premier mandat, puisqu'il a eu la bonne idée de bannir Huawei.
Et il est bien, lui.
Et ce qui fait que la Chine a compris le danger. Contrairement à l'Europe, tu vois, quand eux, ils réagissent, quand ils comprennent le danger.
Non, mais eux, ils ont des plans sur 20 à 30 ans, tandis que chez nous, dans un an, ils ne seront plus là. Donc forcément, la perspective n'est pas la
même. Mais ils avancent effectivement plus vite que prévu, c'est-à-dire qu'on pensait qu'ils avaient 20 ou 30 ans de retard. Mm. Alors, il y a aussi un petit peu, là, on a vu qu'ASML avait a priori livré une machine en Chine qu'ils n'étaient pas censés livrer, qui permet d'accéder à des technologies qu'ils n'avaient pas. Et on a surtout la Chine essaie de voir se positionne face à Taïwan, c'est-à-dire s'il y a une guerre face à Taïwan, comment continuer à faire des processeurs. Voit également l'exemple russe, puisque la Russie a des gros problèmes pour trouver des processeurs pour ses missiles.
Mais ils ont réussi à faire les leurs. Hein,
oui. Après, ils ont démonté aussi pas mal de machines à laver, de choses comme ça, pour essayer de faire des choses.
Ouais, propagande LCI, là, c'est Bouygues. Hein. Ils cherchent à avoir les contrats de reconstruction en Ukraine.
Les processeurs russes sont pas fous. Hein.
Non, mais je connais des gens qui se sont. Parce que tu sais, en Asie, j'avais forcément des amis qui étaient en Chine et en Russie. En Russie, ils ont leur site d'exploitation et puis ils ont
leur moteur de recherche type Google, tout à fait, qui marche très bien.
Les Chinois aussi, ils ont leur.
En Chine, ils ont Harmony OS qui vient de Huawei,
tout
justement.
Tout à fait.
Leur réseau social. Moi, quand j'étais en Thaïlande, mes réseaux sociaux n'étaient pas. J'étais pas forcément sur.
Tu as WeChat, tu as Baidu, tu n'as absolument aucun GAFAM en Chine.
C'est pas les mêmes. Ils sont interdits. Tu fais une escale en Chine, ton Facebook ne marche pas, ton Google ne marche pas non plus.
Chrome ne marche pas.
C'est ça, les technologies.
Ils n'utilisent même pas Chrome.
Ils sont protégés.
Beaucoup dans les apps.
Mais tu sais, ce qu'on appelle les sanctions, c'est empêcher dans des technologies et des médicaments à des pays, mais ça veut dire qu'eux, forcément, ils trouvent des solutions.
Sûr,
ils ont très bons ingénieurs en Russie. Donc, ils font leur téléphone eux-mêmes avec leur système d'exploitation, les leurs. Donc, ils n'ont peut-être pas fait un truc quantique encore, mais ils ne sont pas à la rue du tout.
Bien sûr, ils ont l'équivalent de leur note Galiléo et du GPS, évidemment, tout à fait.
Tout à fait. Donc, au niveau matos, c'est bon, ça arrive. Tu m'as parlé de SML aussi, là, de GML, je ne sais plus.
ASML.
SML.
ASML, donc ils ont des machines qui ne sont pas censées exporter en Chine et de toute façon des technologies que les Américains veulent garder. Et a priori, il y aurait une machine qui se serait retrouvée en Chine, qui, comme les Airbus, va disparaître.
Ah mon Dieu, ils ont copié un truc.
Ils ont copié un truc,
ouais. Ok. Et puis surtout, il y a une innovation extraordinaire. On avait vu que les processeurs, à une époque, augmentaient de fréquence régulièrement. D'ailleurs, à une époque, il fallait tous les 6 mois, 1 an, casser la tirelire pour changer de processeur. Un hommage ici au Pentium, si tu nous regardes, rappelle-toi de nous. Et c'était à cause du fameux effet tunnel, qui voulait dire que lorsqu'on gravait à un certain moment trop petit, les électrons et autres passaient à travers les cloisons, et donc on ne pouvait plus faire des transistors. Et là, Jean-Luc, je crois qu'on a passé un cap technologique.
Oui, c'est-à-dire qu'il y avait la loi de Moore qui nous permettait régulièrement de doubler la performance. Et cette loi de Moore... était confronté à un mur qui est le mur de la miniaturisation, c'est-à-dire à partir d'un certain seuil, on ne pourra plus miniaturiser. Et là, IBM a fait une annonce comme quoi ils sont en mesure de descendre en gravure sous le nanomètre à 0,7 nanomètre, c'est de l'hyper-précision, et ça offre des perspectives sur les processeurs pour faire davantage de calculs sur une même surface, pour consommer moins d'électricité, avoir des processeurs beaucoup plus économes. Et donc, on repousse le mur de la loi de Moore.
D'accord. Nicolas, tes tablettes, elles tournent sur quoi ?
Alors, nos tablettes, essentiellement, elles tournent sur des Linux ou des Android. C'est ce que demandent les gens, des choses légères.
Mais au CPU ?
CPU, c'est essentiellement du ARM. On nous demande du Intel, parfois, mais en termes de coût et même de consommation énergétique,
d'accord,
c'est pas très optimisé, on demande du ARM.
Aujourd'hui, toi, s'il y a une composante matérielle qu'il faudrait optimiser, la limitation a longtemps été le disque dur, car il était mécanique. Aujourd'hui, avec le SSD, il ne l'est plus, donc ce n'est plus le facteur limitant. La technologie pourrait nous apporter, c'est quoi ? C'est CPU, mémoire.
Non, c'est la communication entre chaque élément. C'est-à-dire que là, on a des goulots d'étranglement.
C'est les bus, en fait. Voilà. D'accord.
Notamment l'IA, quand on commence à faire communiquer plusieurs serveurs, quand on veut mettre des gros modèles, on se rend compte que l'Ethernet ou le Thunderbolt, c'est un peu lent pour ce qu'on veut faire. C'est plutôt ça en ce moment, je pense, le goulot d'étranglement.
On parle de redéfinition de pile TCP/IP, hein, de la repenser, de la réduire.
On parle aussi sur l'évolution de l'architecture des boards, basée sur finalement l'architecture de la mémoire. La mémoire partagée qui peut être utilisée à la fois par les CPU et les GPU, alors qu'historiquement, cet accès était isolé. Le GPU n'avait pas accès à la mémoire traditionnelle, DDR5 ou ce genre de trucs. Et on avait donc une difficulté de performance où il fallait déplacer la mémoire classique, le contenu, vers la mémoire GPU pour qu'elle puisse être exploitable. Et il faut savoir que l'IA, c'est du GPU. Et donc, l'IA qui a besoin d'énormément de mémoire, sur une technologie de mémoire partagée, ça permet d'exploiter l'intégralité de la mémoire de la machine au profit des calculs IA. Et oui, donc des IA locales.
Apple, là-dessus, sur les Mac mini et autres, tu peux avoir la mémoire unifiée, donc à la fois de la RAM et du stockage, et c'est très intéressant pour l'IA, justement.
D'accord. Ok, alors je voudrais faire un petit détour sur une société qui a fait beaucoup l'actualité, beaucoup parlé d'elle dernièrement, y compris en Espagne, y compris dans différents pays, c'est Palantir. Palantir est une société israélienne basée sur la sécurité et qu'on a retrouvé aussi impliquée dans des petits scandales de surveillance. Alors, c'est bien beau, mais on ne comprend pas très bien exactement de quoi il s'agit. Évidemment, dès qu'on touche à la sécurité informatique, dès qu'on touche à Israël, ça part dans tous les sens. Les gens disent tout et n'importe quoi. Nicolas, qu'est-ce que Palantir ? Qu'est-ce que c'est cette société ? De quoi vit-elle ? Qu'est-ce qu'elle fait ?
Alors, les sociétés israéliennes dans la sécurité, il y en a beaucoup, et les gens oublient qu'Israël, une partie du PIB, ce sont des start-up et des grosses sociétés de sécurité, et là-dessus, ils sont très forts.
Checkpoint,
le Mossad nous montre tous les jours que c'est le cas.
Ça, c'est l'application militaire, mais dans le civil, ils sont aussi très présents.
Exactement, hein. Exactement. Et donc, Palantir, bon, pour résumer, pour faire une métaphore pour tes auditeurs, c'est une sorte de Facebook où tu as un big data, mais destiné aux services secrets, aux services qui ont besoin d'informations, les services intérieurs, la DGSI et autres. Autrement dit, tu as un board avec toutes les infos, avec le recoupage d'informations, tu peux prévoir des choses et tu peux prévoir soit des opérations, soit voir si ces opérations seront risquées ou non. Donc Palantir vend ce type de service. Et donc on est dépendant de ces types de sociétés avec l'information, etc. Donc on cherche en France à s'en défaire un peu. Maintenant, ça ne se fait pas en quelques années. Hein. Les premiers appels d'offres, je crois, ils
ont
quelques
années. Comment ce big data, tu me parles d'un réseau social, d'une grosse base de données, comment on peut parler de scandale d'écoute sur téléphone ? Quel est le cheminement qui amène à ça ?
Alors là, j'imagine, je n'ai pas l'affaire dont tu parles, mais j'imagine que ça a été fait sans mandat ou en ne respectant
pas
les
lois. Si le gouvernement français veut se défaire de Palantir, et si le gouvernement espagnol dit « nous avons des déstabilisations à cause de... » C'est qu'il s'est passé quelque chose de plus que le big data.
Le fait est que nos alliés sont aussi des gens qui nous espionnent. Donc les logiciels Pegasus qui espionnent les téléphones des...
les Américains ont foutu des trucs partout chez nous, hein, ça c'est clair et net.
Et on ne peut pas être assuré à 100% que les logiciels qu'ils nous fournissent, Palantir ou autres, ne soient pas des logiciels qui informent aussi nos alliés ou nos ennemis.
Et le problème justement, c'est la source d'information. C'est-à-dire que ce type de logiciel n'est valable que si l'ensemble des sources d'information sont colossales et permettent des accès à des données qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Et pour déployer Palantir en France, eh bien, il faut alimenter Palantir en complément avec des sources de données françaises. Et le risque, hein, il est là, c'est que Palantir, ayant accès à ces sources, puisse les faire fuiter au-delà. Et donc, on a une perte de souveraineté et on donne un accès potentiel à des entités qu'on ne maîtrise pas.
D'accord. Bon, très bien. Et tout ceci nous emmène sur les sujets de confidentialité et de piratage. Je crois qu'il y a un nouveau leak qui vient de passer, là, LEAK.
Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a un site qui recense l'ensemble des fuites de données en France depuis à minima le début de l'année. Et vendredi dernier, je regardais les chiffres sur la journée, 3 800 000 enregistrements encore fuités en France. On est vraiment le bac à sable.
Il les avait déjà.
Pour ne pas dire la risée du monde, parce que si on regarde d'un niveau global...
Il faut numériser plus, il faut demander plus d'informations aux gens pour les stocker.
Pour fuiter davantage.
Voilà, c'est tout public, on va tout donner à tout le monde.
Mais on est vraiment le terrain de jeu, aussi bien par des apprentis hackers, des ados français, que des entités étrangères qui viennent se faire la main sur nos systèmes parce qu'on a un niveau de protection qui est trop bas.
Avec un gouvernement qui ne veut pas prendre les décisions nécessaires parce que cela signifierait visiblement que lui-même devrait arrêter de nous espionner.
Alors non, pas tout
c'est
à
pas
fait.
C'est pas ça que j'ai vu passer.
Les décisions sont là. C'est-à-dire que le gouvernement, qui n'est pas le bon élève dans l'histoire parce qu'on fuite énormément, que ça soit de Bercy, de l'ANTS, etc. Donc le gouvernement qui ne sait même pas protéger ses propres données définit la réglementation en France et l'obligation pour les entreprises privées. Et on a tout un ensemble de réglementations comme DORA pour le monde finance, banque et assurance, comme le CRA, c'est-à-dire le Cyber Resilience Act, comme tout un ensemble de nouvelles réglementations, même on est en retard sur certaines, il y a NIS 2 qui devrait déjà être déployé. En fait, on n'arrive même pas à suivre toutes ces réglementations qui nous contraignent pour la cybersécurité, alors qu'en fait, opérationnellement, on n'est pas à niveau. Donc ça ne sert à rien de surréglementer, parce qu'en plus, ça part dans tous les sens, il y a des lois qui sont contradictoires. Par exemple, l'article 29 de DORA va dire qu'il faut démultiplier les fournisseurs pour éviter la concentration. Donc on augmente la surface d'attaque, la surface de cyberattaque, alors que d'un autre côté, on veut au contraire protéger et réduire ces surfaces-là.
Oui, mais ça peut être aussi mêlé à des soucis de corruption. Moi, j'ai parlé avec la responsable d'Anticor dernièrement. On a des gros problèmes de corruption en France. Exemple, on a imposé aux détenteurs de Bitcoin et de crypto de déclarer à Bercy leur propriété en crypto et en Bitcoin. Conclusion, les employés de Bercy ont vendu les fichiers des détenteurs de Bitcoin à des criminels. Conclusion, il y a eu depuis cet hiver des vagues d'attaques de homejacking, de gangsters qui sont allés chez les gens qui avaient déclaré avoir des cryptos et ils se sont fait couper les doigts, arracher des yeux pour qu'on leur prenne leurs cryptos. T'en as entendu parler, Nicolas, quand même?
Oui, et il y a eu ça. Il y a aussi la fuite, tu sais, de la Fédération française de tir sportif.
Oui, après, les gens sont allés chercher les armes chez ceux qui étaient...
Les gens. Voilà. Effectivement, ça met en danger beaucoup de gens.
Donc, tout informatisé, tout stocké dans des lieu perméable, ça pose quand même des questions.
Alors, tout informatisé, c'est pas un problème, c'est la question de la sécurité. Et dans ce cas-là,
on n'est pas bon. Non seulement il y a des problèmes technologiques de confidentialité, de passoires et autres, et tu as des problèmes de corruption, de facteurs humains. Comme tu l'as dit, le problème, il est entre les lunettes et le clavier, hein, entre la chaise et le clavier, qui vont aller vendre les fichiers pour qu'ensuite des criminels, ils disent, ah, tu me donnes le 15%, je te donne le fichier, là, et puis, ça pose quand même des soucis. Jean-Luc.
La réponse de la France a à nouveau été réglementaire pour éviter que les dirigeants de sociétés de Bitcoin se fassent kidnapper ou leur famille ou leurs proches. La réglementation a permis l'évolution du CABIS de telle manière à masquer les données personnelles de résidence des dirigeants d'entreprise.
Ah, explique-moi ça, Nicolas.
En fait, sur ton CABIS, tu as l'adresse personnelle du dirigeant.
Oui.
Donc les gens.
Société.com peuvent... et tout, on pouvait voir.
Voilà. Hein. Et de toute façon, tout est en libre accès. Donc tu as accès à un tas de documents, notamment même ne serait-ce que les comptes. Hein. Donc toutes les sociétés étrangères savent exactement ce que tu fais comme business et quel argent tu gagnes.
Non, ça, j'y crois pas du tout. C'est pour se faire avoir. Parce que franchement, le truc de cacher le nom sur le CABIS, le petit restaurant, l'indépendant, il s'en moque complètement. Ça a toujours existé. Ça, c'est encore un truc qui va protéger les fraudeurs et les gens qui.
Non, c'est bien cette confidentialité sur certains aspects, notamment ne serait-ce que les bilans. Tu vois, les bilans en France, on doit déposer.
Ça fait des années qu'ils sont plus publiés. Tu vas sur société.com, personne n'est publié les bilans.
Oui, mais jusqu'à présent, c'était pas légal. Maintenant, tu peux demander la confidentialité.
Si, tu fais 100 balles par an d'amende et puis tu publies pas les bilans. Voilà, ouais. Voilà, c'est pas grave ça. Mais je veux dire, la réponse à la corruption de. Encore une fois, c'est un truc qui a protégé ceux qui trichent. Je vois que ça, moi.
Après, l'administration a accès à ces données. Elles sont juste pas publiées.
Oui, certes. C'est-à-dire, donc, elles peuvent encore être revendues. Bon, très bien. OK. Moi, je pense toujours que trop d'informatisation, trop de réglementation est un problème parce que l'innovation, où l'arrivée des problèmes se situe en dehors des normes et des conventions. Comment est-ce qu'on pourrait philosophiquement adapter ce point de vue avec la marche forcée vers l'informatisation totale qu'on est en train de vivre, Jean-Luc ?
Alors, c'est assez intéressant parce que cette marche, le terme est bon en
Vous
France.
Avez 4 pages et 2 heures.
Le terme de marche est bon en France, alors qu'aux États-Unis, c'est la course.
Oui, bien vu, bien vu.
C'est-à-dire que, à cause de tout
ce... Il n'y a pas d'ascenseur social ici, il y a un escalier.
Ouais. Exactement. Et il va vers la cave.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'en fait, on a un tel poids administratif et fiscal, etc., qu'on n'a pas la capacité de courir aussi vite que la concurrence qu'on a en Asie ou qu'on a aux États-Unis.
L'anthropique n'a respecté aucune règle pour aller beaucoup plus vite, quitte à payer 1 milliard d'amendes plus tard.
Exactement.
T'as vu, et ils l'ont annoncé clairement, c'est partie de leur business model.
Oui, et en France, on aurait été arrêté dès le premier élan.
Nicolas, on t'a empêché de développer tes technologies avant tes 18 ans, si je me souviens bien.
Oui, j'ai plus le détail, mais j'avais pas 18 ans. Donc.
Non, voilà, à l'époque, t'avais les lignes électriques et tout, mais on t'a empêché de développer tes trucs avant que tu sois autonome, quoi. Voilà.
Si on regarde les enjeux dans les prochaines années, hein, ça va être la crypto avec l'arrivée du quantique, etc. Et en France, on est le seul pays qui a la barrière cryptographique. C'est-à-dire que pour mettre sur le marché le moindre logiciel, il faut avoir l'approbation de l'ANSSI. Il faut faire des déclarations dans tous les sens et l'ANSSI ne répond pas toujours. Ça veut dire que si jamais on veut faire de l'innovation ou mettre en place des systèmes sécurisés post-quantique, en France, on ne peut pas le faire. Et donc, les problèmes qu'on voit de fuite de données aujourd'hui, ils seront encore plus massif lorsque le quantique arrivera en France.
Ah, mais l'arrivée du quantique veut dire la fin du chiffrement, de toutes les sécurisations par chiffrement et cryptographie.
Oui, il y en aura d'autres avec le quantique. Voilà.
Oui, bien sûr. Voilà.
Mais oui, on applique le principe de précaution à tout et à l'excès. Ça fait penser un petit peu à la Chine au 10e, 11e siècle. La Chine, en 11e siècle, ils avaient inventé la boussole, la poudre noire, les gazoducs. Pourtant, il n'y a pas eu de révolution industrielle. Et pourquoi ? Ils avaient aussi inventé des bateaux qui faisaient 100 mètres, 200 mètres de long. Hein. Mmh. Les Chinois, nous, la Santa Maria, je crois que c'était 19 mètres.
Oui, il y a des cycles comme ça. C'est comme le climat, il y a des cycles.
700 ans avant nous. 700 ans avant nous. Et pourquoi ? Parce que l'empereur pouvait décider, centraliser le pouvoir, si c'était bien ou pas. Et l'empereur,
il avait une vision sur 30 ou 40 ans, pas sur 5.
Mais l'empereur, à un moment, il a dit les bateaux, ça sert à rien. Les Chinois ont arrêté le développement de bateaux qui faisaient 200 mètres de long.
Et c'est aussi le problème d'avoir une centralisation des décisions,
voilà.
Bien sûr.
Ah, oui. Et nous, j'ai l'impression qu'on fait un peu la Chine, alors que c'était inversé. C'est-à-dire, on avait connu la peste noire, etc. Donc on a essayé d'automatiser, de faire des machines, puisqu'on avait beaucoup moins de personnes. Hein. On était 3 fois moins en Europe qu'en Chine. Et j'ai l'impression que maintenant, c'est l'inverse. Les Chinois, malgré le nombre, fabriquent beaucoup d'innovations, même dans la robotique. Hein, on en reparlera dans une autre émission.
Ah, mais j'ai un ami qui rentre de Suisse, là, qui est allé au salon de la robotique et tout. Il se passe quelque chose. Hein. On ne s'en rend pas compte ici dans le Périgord, mais on est vraiment en train d'arriver à Star Trek et Star Wars. Hein. On y va. Hein,
et voilà. Pas en Europe.
Non, très peu. Même si tu peux commander sur Temu un robot maintenant à 10 ou 15 000 balles.
Exactement.
Jean-Luc, la robotique ?
La robotique, le plus concret, c'est la robotique opérationnelle. En Chine, on a les taxis volants. Voilà, ils sont opérationnels.
Ça y est, c'est parti. Ça commence.
En Chine, on a des dizaines de milliers de camions automatisés sur les routes. On ne les a pas en France.
Non.
On n'a même pas le tracteur, on a juste la remorque.
Non, mais c'est l'est des États-Unis. Non, c'est l'ouest des États-Unis et l'Asie du Sud-Est. C'est là que ça se passe en ce moment. C'est là que les QI sont concentrés, là que les innovations sont effectuées actuellement. Très bien. C'était Nicolas Ruiz de Heavy Group, les tablettes professionnelles et codage, coding, confidentialité et autres. C'était Jean-Luc Antoine de Stacy Show, aussi consulting, messagerie sécurisée, sécurisation, sécurité des sociétés et des systèmes d'information. Mes amis, passez un bon été. À votre avis, d'ici septembre, octobre, qu'est-ce qui va se passer ? Quelles sont les innovations ? Il y a des projets, des trucs qui sentent
là. C'est les vacances, les avocats partent en vacances.
Ouais.
Donc je pense que tout le monde...
Il faut s'attendre pour la rentrée à des annonces IA à nouveau.
Oui, des augmentations de prix.
Et les USA ont déclassifié plein de trucs sur les ovnis. Nous sommes, paraît-il, en guerre et tout le monde s'en fout.
Bon.
Voilà. Non mais c'est intéressant.
Partons en vacances, nous verrons à la rentrée.
Partons, exactement. Nous sommes bien français, nous faisons ça. Ouais. Allez, à tous les auditeurs. À l'année prochaine. Au revoir.
RLP Business.
Radio Libre en Périgord.